Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero au micro pour le premier volet de cette édition d'Escale, Leila Zerougui tire sa révérence. Nous avons joint la représentante spéciale du secrétaire général en République démocratique du Congo et chef de la mission des Nations Unies dans ce pays avant qu'elle ne quitte ses fonctions début février. Dans cette première partie de notre entretien, Madame Zerougui partage son analyse de la situation en RDC, des défis qui y demeurent et revient sur quelques moments forts. Son mandat en tant que représentante de l'ONU dans le pays a été marqué par l'accompagnement de l'organisation dans le tout premier transfert pacifique et démocratique du pouvoir en RDC. Madame Zerougui ne tire pas pour autant un bilan positif de son mandat, même si elle considère qu'il y a des évolutions positives.
Vous savez, pour parler d'une évolution positive, il faut déjà avoir traversé la transition et regarder avec du recul. Nous sommes en pleine transition politique dans ce pays et c'est pour ça qu'il faut rester quand même prudent, même s'il y a des choses positives, parce qu'on n'a pas tourné la page de quelque chose et on l'aborde de loin. On est en train de vivre une transition. Et cette transition, comme vous le savez, les dernières élections, elles devaient se tenir en 2016, reportées en 2017 puis en 2018. Et puis organisé finalement fin 2018 avec tout ce qu'il y avait avant, avec tout ce qui est venu derrière. Et nous avons eu cette transition d'un pouvoir qui était en place depuis plus de 20 ans, si on compte les années du père Kabila. Et puis surtout aussi une transition qui vient dans un contexte de tension et un passage vers l'opposition. Donc, quel que soit ce qu'on peut dire du processus, quel que soit, on est dans cette situation extrêmement importante parce que nouvelle dans le pays. Parce qu'on n'a jamais fait ce genre de transfert par élection. On prend le pouvoir par la force, on prend le pouvoir par l'héritage, on prend par un coup d'État, mais certainement pas on va demander au peuple et on va aux élections et après on fait un transfert. Donc ça en soi est extrêmement important. Donc, nous avons des acquis positifs, mais nous sommes dans une période fragile. Crier victoire aujourd'hui et dire « ça y est, on a tout fait », c'est de la prétention et c'est risqué. C'est pour ça que je dis « on n'est pas encore dans un bilan totalement positif qu'on va léguer, comme on raconte l'histoire ». On est dans la transition. On est encore aujourd'hui dans une situation où ceux qui ont fait alliance à la fin des élections et à la proclamation du président, se sont séparés déjà. Et on est dans une phase où on veut constituer une nouvelle majorité autour du nouveau président. Et on est en train de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va marcher? Donc, on est dans cette situation-là. La deuxième chose importante, c'est que nous sommes aujourd'hui au Congo avec quelque chose qui, quand même, n'était pas évident il y a quelques années. Vous avez l'ancien président qui est ici, au Congo. Vous avez l'actuel président, vous avez l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, vous avez Moïse Katumbi, vous avez Fayoulou. Ils sont tous là. Et personne ne dit « je vais créer un groupe armé, je vais faire la guerre pour conquérir le pouvoir ». C'est des débats politiques. Et ça, c'est très positif. Mais il faut construire tout ça. Donc voilà un peu si je parle de cette situation. Oui, nous avons contribué. Pas seulement nous avons aidé les Congolais, nous avons aussi aidé les partenaires de la RDC au niveau multilatéral, bilatéral, régional, à faire avancer ce processus pour arriver à des élections, pour qu'un président quitte, un autre vienne, mais il faut répéter ça deux ou trois fois pour que ça devienne safe et à ce moment-là, on n'a plus besoin d'une mission de maintien de la paix, on n'a plus besoin d'appui extérieur puisque nous allons rentrer dans une phase où les élections deviennent un moyen normal et celui qui gagne, il gagne et celui qui perd, il rentre chez lui, mais il n'a pas peur. On ne va pas le tuer et on ne va pas le mettre en prison et on ne va pas l'exiler. Et c'est ça pour moi les acquis.
Alors justement, beaucoup appellent au départ de l'ONU en RDC et vous avez dit qu'il reste encore beaucoup à faire. Quelles sont, selon vous, les priorités pour la République démocratique du Congo et pour l'ONU en RDC?
D'abord, je pense qu'il faut rappeler à tout le monde que l'ONU était déployée dans tout le territoire de la RDC. Après les élections de 2018, en 2019, on a fermé 8 bureaux. Qui dit 8 bureaux veut dire 8 provinces. Donc, on était déployés dans pratiquement 16 provinces et on a fermé 8. Après, on a fermé le 9e. Et aujourd'hui, nous sommes dans un processus de fermeture de 2 encore bureaux et peut-être le 3e. Donc aujourd'hui, notre perspective, c'est de rester dans 3 provinces. 3 provinces qui sont encore affectées par le conflit. Donc la mission n'est pas là pour rester au Congo éternellement. La mission n'est pas là pour s'imposer. La mission veut s'assurer que quand on quitte un endroit, on ne revient plus. Parce qu'on a bien évalué la situation et on ne le fait pas seul, on le fait avec les autorités. Et on a évalué la situation, on pense que les capacités, parce que aucun pays ne va avoir aucun problème, sinon la mission ne part pas. Ce n'est pas l'objectif. Notre objectif, c'est d'avoir des autorités, des fonctions régaliennes de l'État qui sont suffisamment fortes pour assumer leurs charges et qu'il n'y ait pas encore rupture de la paix. Et donc, la mission, quand elle quitte une zone, ça veut dire qu'on a évalué ensemble que les problèmes en présence et la façon de les gérer, l'État est en mesure de le faire sans passer par ce soutien international. Maintenant, dans les zones où nous sommes encore nécessaires, pourquoi on est nécessaire? Parce que nous avons une zone où le conflit s'est structuré dans l'économie, dans l'ethnicité, dans la région, dans la politique, dans l'accès à la terre, dans l'exploitation des richesses naturelles. Donc, tous ces problèmes-là, il faut les détricoter avec les autorités pour justement tourner la page du conflit, parce que vous créez une économie de guerre et des intérêts que la guerre entretient, et donc on n'a pas envie que ça s'arrête. Ceux qui tirent profit de ça, ils ne veulent pas que ça s'arrête. Et donc, il faut travailler pour qu'on revienne à une économie de paix et on réconcilie les communautés. Et aussi, on sanctionne ceux qui sont en train d'entretenir l'économie de guerre. Et c'est pour ça qu'on parle de lutte contre l'impunité, on parle de réconciliation ou de justice transitionnelle, on parle de DDR communautaire et pas de « je prends les armes contre la République et après je deviens général et après je rentre dans l'armée et je commets des exactions sur la population ». Non, l'armée doit recruter normalement et celui qui veut postuler doit remplir les conditions et s'il est accepté et s'il passe le concours, il rentre, tant mieux. Maintenant, tourner la page du conflit, il faut, comme on dit en anglais, « empower the community », c'est-à-dire renforcer les capacités des communautés pour absorber ceux qui un jour ont pris les armes, ont commis des exactions, sanctionner ceux qui méritent d'être sanctionnés, pardonner si la communauté estime qu'on peut tourner la page sur certaines choses, comment on peut avancer, comment on peut construire l'avenir, comment on donne une chance aux gens de tourner la page de la violence, comment on prend en charge les victimes et surtout comment on s'assure que ça ne se reproduise plus. Et ça, c'est quand on renforce la justice. C'est pour ça, dans nos plans et dans notre stratégie de drawdown, de sortie du pays, on travaille sur ces choses-là. Construire la réponse judiciaire, la lutte contre l'impunité, la protection des populations vulnérables, assurer que le maintien de l'ordre n'est pas une affaire de l'armée, mais une affaire de la police, de la justice, rétablir la confiance et la légitimité de l'acte politique et de la représentation politique dans ces zones qui ont été fracturées, qui continuent d'ailleurs, vous le savez, il y a encore des violences, il y a encore des tueries, il y a encore des viols, il y a encore des villages brûlés. Mais quand on compare avec le passé, parce que toujours, quand vous êtes face à une situation, vous devez toujours regarder d'où vous venez. Et moi, je rappelle toujours à mes amis congolais, je dis quand j'étais venue chez vous en 2008, il y avait des pans entiers de certaines zones occupées par des groupes armés. Et même l'armée nationale ne peut pas y accéder. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de zones occupées, personne ne peut y aller. Les groupes armés opèrent dans des zones éloignées, ils opèrent la nuit, ils utilisent la vulnérabilité des gens qui sont loin des centres, ils se cachent, ils se terrent, donc on est dans un autre contexte. Mais les violences sont toujours là, il ne faut pas les sous-estimer et c'est pour ça qu'on continue à travailler et c'est pour ça que le Conseil de sécurité considère que la mission doit encore rester. même s'il y a demande de réduire les capacités, de réduire la présence. Et donc, c'est un travail qui envoie, j'espère, la finalisation. Et c'est pour ça qu'il faut éviter que le politique ne nous ramène en arrière. Il faut, parce qu'il y a l'influence. Si le processus politique échoue, c'est un peu le marécage et vous avez tous les monstres qui vont se nourrir dedans, ils vont sortir, ils vont reprendre leurs espaces. Donc, on doit travailler à la fois pour renforcer le processus politique, mais aussi renforcer les fonctions régaliennes de l'État, aider à ce que les spoilers et les bombes armées soient contrôlés, réduits et mis hors d'état de nuire, réconcilier les communautés, leur donner accès à du travail, à la terre et à croire dans leurs institutions.
On va passer plus généralement à votre parcours au sein de l'ONU. Est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote qui vous tient le plus à cœur de votre passage à l'ONU ?
Tellement de choses, je ne sais pas à quoi je pourrais me référer, mais je pense que ce qui est le plus important lorsqu'on parle des Nations Unies, c'est aussi de garder à l'esprit les limites que nous avons. Je me rappelle pendant, par exemple, les élections que nous avons eues, les gens voulaient qu'on se positionne pratiquement. Chacun voulait qu'on se positionne avec un candidat ou contre un candidat. Et je me suis pratiquement battue contre tout le monde pour dire que la mission n'a pas à se positionner. Ce n'est pas à nous de décider qui est le bon candidat et qui est le mauvais. Les États peuvent choisir. Ils peuvent se positionner. Les gens dans le pays, bien évidemment, c'est leur droit absolu de choisir pour qui ils veulent voter. Et le plus gros problème que j'ai eu en essayant de dire ça, parce que n'oubliez pas que dans une mission de maintien de la paix, vous avez des staffs internationaux, mais vous avez aussi le staff national. Et vous ne pouvez pas demander au staff national de ne pas se positionner dans une élection pareille. C'est très difficile parce que eux, ils sont positionnés, c'est l'avenir de leurs enfants, de leur pays. Et ils se positionnent politiquement. Et j'ai eu du mal au début pour dire on n'a pas le droit de se positionner. Que ce soit dans notre radio CAPI, que ce soit d'être candidat et être aux Nations Unies, donc on doit choisir. Et moi-même, je comprenais tout ça. Je comprenais que ces staffs, ils sont chez eux. Et c'est très difficile de leur demander de ne pas se positionner parce que c'est tellement important pour l'avenir de leurs enfants, de leur pays, etc. Et ça a été un exercice, à mon avis, pénible pour moi. Mais j'ai gardé cette parfois stoïque, d'être stoïque et de dire c'est comme ça et si vous n'êtes pas d'accord, vous devez démissionner ou vous devez quitter et la mission ne doit pas se positionner parce que justement, je voulais sauver l'espace que nous avons, de rester au milieu du village. Et je me rappelle qu'à l'époque, le secrétaire général du PPRD, Chadari, qui a été candidat du PPRD, quand j'ai été le voir, m'avait dit « On ne vous demande pas de vous positionner quand j'ai expliqué ma position, on vous demande de rester au milieu du village, justement, et de ramener l'opposition aux élections. » Et je me rappelle avoir dit « Oui, on reste au milieu du village et on essaye de ramener tout le monde vers le processus, mais il ne faut pas que ce soit le processus du motant de l'Aïd. » qu'on ramène pour l'égorger. Donc, il faut que ce soit un autre processus qui permet à ce que chacun vienne avec des espoirs. Et donc, c'est un peu ça le travail, c'est que parfois, vous êtes obligé de jouer les anecdotes, les trucs pour faire avancer un processus qui n'est pas toujours facile et de garder les gens qui, en principe, ne sont pas d'accord avec vous, quand même rester avec vous. Et je pense que malgré toutes les difficultés qu'on a eues, les élections, plus les coupes budgétaires, les fermetures des bureaux, les staffs qui ont perdu leur poste. Mais à Bouloumoubanchi, les gens ont organisé même un enterrement parce qu'ils étaient tellement fâchés. Et je comprenais tout ça. Mais aujourd'hui, avec du recul, les gens reconnaissent que la mission a joué un rôle positif et a permis à ce que ce processus avance. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question.
Nous voilà arrivés à la fin de cette première partie de notre édition d'Escale portant sur la fin du mandat de Leila Zeroughi. On se retrouve bientôt pour le deuxième volet, lors duquel Madame Zeroughi reviendra sur son parcours au sein de l'ONU Elle invitera également les femmes à se joindre aux missions de paix et nous donnera quelques pistes sur ses prochaines étapes. Restez à l'écoute, merci de votre fidélité et à bientôt.